RFI.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Rossia Dobrivietcher, bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, bien sûr, et aussi sur Facebook, Facebook Live. Vous pouvez nous voir si vous avez envie, même à cette heure tardive. Suède-Angleterre, les qualifiés du dernier quart de finale de cette 21e Coupe du Monde, s'est décidé il y a quelques minutes. Les Anglais vainqueurs au tir au but et des Colombiens vaincus, désespérés d'être passés si près de leur chance après une égalisation dans les dernières secondes du temps réglementaire. Un match qui s'est animé en fin de partie après avoir profondément ennuyé les spectateurs et surtout avoir beaucoup déçu. Nous allons en parler. Parlerons de ces cafeteros qui ont joué sans leur meneur de jeu James Rodriguez. Il leur a bien manqué. Les Suédois se sont qualifiés eux en inscrivant le seul but de la partie. Les Suisses sont maudits car jamais encore ils n'ont gagné de match à élimination directe en Coupe du Monde. Il leur faudra encore patienter. Et résultat, il reste seulement deux équipes sud-américaines dans cette phase de quart de finale pour six équipes européennes. Tous les adversaires donc des quarts de finale sont connus et au soir des dernières rencontres du huitième de finale, eh bien nous dresserons un bilan en évoquant notamment ces grandes nations déchues, la répartition déséquilibrée. On vous en parlera entre les deux parties de ce tableau. Et puis nous parlerons aussi de ces grands joueurs qui sont rentrés chez eux pour laisser la place, qui sait, à de jeunes héritiers. Et pour évoquer ces sujets, Eric Ravesandratana, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Ancien joueur du Paris Saint-Germain notamment, et donc il aura un regard, il tirait des pénaltys et des tirs au but, donc ça sera intéressant de connaître son regard. Bruno Constant, c'est compté, bonsoir Bruno.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Et puis Naïm Moniol, bonsoir Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Nous allons rejoindre d'ici quelques secondes Christophe Jousset, qui est donc dans le stade du Spartak Moscou. Radio Foot, grâce à Freddy Koula, un salut particulier ce soir à Jean-Marie Bengone, qui nous écoute au Gabon, à Libreville, dans le quartier de Charbonnage. Radio Foot, c'est parti, donc sur les ondes et sur Facebook Live.
Direction la Russie, pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.
Corner, il monte haut. Tête britannique, alors qu'un britannique est tombé dans la surface.
Carton jaune
pour simulation.
Carton jaune ou pénalty ?
Pénalty.
J'ai l'impression que c'est plutôt un pénalty.
Harry Kane, l'ouragan anglais qui s'élance et qui marque. Ouverture du score anglaise. Et le compteur est débloqué ici à Moscou. C'est parti, c'est bien frappé la tête. Et c'est dedans. L'égalisation.
L'égalisation.
C'est Mina, un but partout, la Colombie revit.
Et c'est terminé. Il va falloir en passer par les tirs au but.
D'ailleurs, on va voir s'il arrive à la mettre au fond et à qualifier l'Angleterre pour les quarts de finale. Il prend son élan, c'est dedans, l'Angleterre est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.
Honneur aux Anglais donc et à cette équipe qui s'est finalement qualifiée du côté de Moscou pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Cela faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé aux Anglais d'aller si loin dans la compétition mondiale. Et tout de suite, eh bien, nous rejoignons Christophe Jousset. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
La voix va tenir ?
Ça va, ça va. Écoutez, on s'est reposé la voix quand même pendant une bonne partie du match. Alors... Oui. On a commenté à Espagne-Russie, donc on ne se plaindra pas, on avait été préparé, mais on a en tout cas beaucoup préféré et de loin la fin de match au début.
Oui, nous aussi je pense, on va en parler. Mais d'abord Christophe, je ne sais pas si ça chante encore autour de vous, mais il y avait 38 000 oui. Colombiens pour 7 000 Anglais, ce sont les Colombiens qui chantent ou qui pleurent?
Écoutez, je ne sais pas si vous le percevez là. Vous entendez un peu?
Oui, oui, bien sûr, oui. On entend très bien.
Ce sont les Anglais, hein, sûr, oui. Oui, ils sont restés.
Bruno
ils sont
les a
tous
identifié.
Restés là.
It's coming home.
Ils sont restés dans It's coming home, oui, on l'a entendu en chemin. It's coming home, et effectivement, ils sont quelques centaines encore, et l'ambiance n'a pas baissé depuis le coup de sifflet final, enfin depuis le dernier tir au but. Ils sont en train de fêter comme il se doit cette qualification pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde qu'ils attendaient depuis si longtemps et qu'ils ont bien cru voir leur échapper, parce que le scénario de cette soirée est quand même complètement fou, quoi. Hein. À la 92e, on se dit, bah voilà. Les Anglais ont un pied en quart de finale depuis le pénalty transformé par Harry Kane à la 57e, et dans une minute ou deux ils auront les deux pieds en quart de finale, et puis l'improbable égalisation de la Colombie sur cette tête de Yerry Mina qui a failli accéder au statut de héros national tant il a marqué deux buts. Le défenseur central est de but essentiel pour son équipe dans cette Coupe du Monde. Mais bon, la suite du scénario n'a pas été favorable à la Colombie.
Oui, ce qui confirme, Christophe, les statistiques d'avant match. La Colombie n'avait jamais battu l'Angleterre en match officiel. Et oui. Cette fois, c'est encore les Anglais qui passent les premiers.
Oui, écoutez, les Colombiens se sentaient pousser des ailes. Alors on va en discuter, on va voir ce qu'on en pense autour de votre table. Nous on a eu le sentiment quand même en commentant ce match que les Colombiens mettaient en route un peu trop tard, qu'ils ont les actions qui ont commencé à peser vraiment sur la défense anglaise. C'est aux alentours de la 80e minute et là elles se sont succédées de manière de plus en plus rapprochée. C'est vrai, ils ont arraché cette égalisation. Ils ont poursuivi sur leur domination dans la première partie de la prolongation, mais sans réussir à tromper une nouvelle fois Pickford. Et puis c'est vrai que derrière, ils ont été encore une fois devant. Hein, après le premier arrêt signé David Ospina, les Colombiens, mais finalement la chance leur a échappé, la réussite les a quittés au moment où il ne fallait pas.
Eric Rabessandratana, tout à l'heure on évoquait ce match et vous nous disiez quelque chose d'intéressant. Vous aviez l'impression qu'ils avaient lâché à un moment pratiquement les cafeteros.
Ouais, ils se sont énervés après les sanctions de l'arbitre. Alors certainement
le penalty aussi.
Alors surtout le penalty où on les a vus.
Ce qui est intéressant,
haranguer l'arbitre,
c'est que celui qui provoque le penalty, c'est Carlos Sanchez. Rappelons-le, c'est celui qui avait été expulsé. Contre le Japon. Premier match de la Colombie et à la troisième minute, il est expulsé.
Et qui aurait pu aussi être expulsé sur le contact avec Sadio Mané lors du dernier match contre le Sénégal.
Oui, donc c'est un récidiviste, on va dire.
Oui, c'est un récidiviste, mais c'est hallucinant cette action, parce qu'en fait, j'ai pas fait exprès, mais j'ai suivi justement parce que l'arbitre était venu leur dire calmez-vous et faites attention. Et en fait, il est parti dans un duel où il le tient, on sent qu'il le tient, il le tient jusqu'au bout. Ouais. Et on voit Harry Kane qui aurait pu se jeter plus tôt, peut-être s'ils avaient été Neymar, il serait jeté plus tôt, mais bon, c'était pas Neymar. Mais il aurait pu se jeter plus tôt, il joue quand même le coup jusqu'au bout. Jusqu'à tomber après, donc le penalty est complètement logique et c'est complètement absurde de la part de Sanchez de faire une faute comme ça.
Et c'est pour ça qu'ils vont mettre autant de temps à revenir dans la partie.
Ils se sont complètement déconcentrés, ils ont vécu le penalty comme une injustice et ils se sont énervés après l'arbitre au fur et à mesure. Ils ont mis des coups, alors ça a dégénéré aussi du côté anglais. Donc on a perdu un peu le fil du match, c'était moins intéressant, même s'ils sont revenus à la fin dans l'esprit, mais c'était ils se sont perdus en cours de route.
C'est plus de la faute des Colombiens que des Anglais.
C'est un espèce de suicide sportif ce qu'ils ont fait. Moi je suis d'accord avec Eric, parce qu'on sait que de base sans James Rodriguez ça joue moins bien au football. On l'a vu quand il est sorti contre le Sénégal, on l'a vu au premier match contre le Japon. Ils ont eu énormément de difficultés à mettre le pied sur le ballon. Falcao était seul, et puis bon, Cuadrado, Quintero ont été très décevants sur ce match, mais progressivement on a l'impression qu'ils ont cherché à hacher le match, à installer un faux rythme, à mettre une tension, un peu comme un mauvais boxeur qui s'accroche à son adversaire parce qu'il n'arrive pas à prendre le dessus. Et au final, je pense qu'ils ont joué contre eux, parce qu'il y avait, à mon avis, possibilité de jouer avant, de se créer des occasions avant, d'être dangereux avant. Ils ont de l'impact physique, sont bons sur coup de pied arrêté. Ils ont égalisé dans les dernières minutes, heureusement, mais très sincèrement, on est très déçus de la Colombie qui pouvait montrer autre chose.
En plus, on voyait, c'était assez étonnant, cette image de James Rodriguez qui haranguait ses camarades, hein, un peu à la mode Cristiano Ronaldo du banc de touche lors de la finale.
Ouais, mais ce qui est moche, c'est que il est jeune et il est leader dans les tribunes. Qui aurait dû prendre sur le terrain la responsabilité un peu d'haranguer les autres? Moi, j'aurais aurait aimé voir ça autre qu'en allant se frotter tête à tête avec Anderson, mais avec
Dyer. Le problème, c'est que le joueur qui aurait dû faire ça, c'est Falcao.
Bah oui,
et Falcao, sur toutes les actions, il était comme les autres.
C'est
il allait voir la
réponse. Falcao,
j'ai trouvé complètement en sorti dehors de son match.
Ouais.
Ah ouais, c'était incroyable.
Alors parlons des Anglais, Bruno. Ces Anglais, est-ce que selon vous, eux aussi ont failli dans ce match en laissant finalement aussi Naïm parler de faux rythme, mais tout d'un coup échapper ce qui devait être leur objectif,
ouais, parce qu'ils
bénéficient d'un penalty, mais après il se passe pas grand chose.
Comme les Colombiens, ils sont sortis aussi du match. Ils n'étaient pas du tout le jeu qu'aimait voir Gareth Southgate. Il n'y a pas assez de vitesse dans le jeu, dans la transmission. On a l'impression qu'ils subissaient plus les minutes passaient, plus on sentait la pression chez eux, peut-être la peur de gagner, la peur d'aller au bout de ce match-là. Et ils ont reculé, ils ont commencé à reculer jusqu'à cette fin de match qui a été épouvantable, où ils géraient pas du tout et ils concèdent ce but presque normalement parce qu'ils étaient plus dans leur match. Et ils ont failli craquer. Et ils ont ce petit regain de forme, mais vraiment à la mi-temps de la prolongation, hein, parce que la première partie de la prolongation, ils ont lâché aussi. Catastrophique,
ouais.
Hein. Il y a un déchet dans le jeu des Anglais
assommé,
qui est anormal.
Les Anglais, c'est extrêmement décevant de commencer une partie avec Sterling, avec Lingard, avec Harry Kane, avec Dele Alli, et finalement de se créer quasiment aucune occasion dans le jeu, de marquer un but sur penalty, de se faire bouffer sur les 10 dernières minutes comme ils l'ont fait. Sterling, il court et il met de la vitesse, mais dans le dernier geste, c'est quand même très mauvais. Dele Alli, on l'a pas vu sur ce match, et je trouve que c'est très décevant. J'aimerais bien voir si Gareth Southgate va pas prendre des...
Mais on l'a vu très vite, en fait, dès les premières prises de balles de ces joueurs-là, il y avait du déchet. Et moi, j'ai tout de pensé à ce que disait Southgate. Ils sont très très jeunes. N'oubliez pas qu'ils sont très très jeunes. On est là encore pour construire. Et que peut-être ils vont aussi subir un peu la pression. Et je pense clairement qu'ils l'ont subi sur ce match-là. C'était difficile pour eux.
Ils ont surtout orienté leur jeu sur le fait d'être bien organisés défensivement, parce qu'ils ont travaillé énormément défensivement. Ils n'ont pas été très bons, les Colombiens. Mais ils sont tombés sur une équipe qui était à 5, qui jouait souvent à 5 derrière. Et qui a défendu très groupé et qui n'a pas laissé beaucoup d'espace pour les Colombiens. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas réussi à construire.
Et qu'ils ont mis du temps.
Mais le péché a été dans la construction, dans la sortie,
dans
parce qu'ils auraient pu jouer en contre.
Et c'est d'autant plus une faillite individuelle des joueurs que j'ai cités que j'ai trouvé que les côté anglais, les ailes avaient été très bonnes. Je trouvais que Trippier et Young mettaient beaucoup de vitesse, amenaient beaucoup le ballon devant. Mais c'est vraiment les joueurs créatifs, les Lingard, les Dele Alli, même Sterling, que j'ai trouvé décevants individuellement.
Christophe, vous avez eu aussi le même sentiment de si près des bord du terrain?
Oui, parce que c'est vrai que les Colombiens, j'ai trouvé que Falcao était vraiment très isolé ce soir et qu'il n'y avait pas d'engagement offensif évident. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y avait de la place pour les Anglais qui, alors c'est vrai, ont plutôt bien défendu. Je trouvais que le repli défensif se faisait ultra rapidement. Ça donnait un match bizarre qui était pas du tout en ballant, en tout cas sur une bonne partie de la durée de cette rencontre. Voilà, on a vu quand même à la 77e une action qui mérite peut-être qu'on y revienne. Contre-attaque, 77e, Sterling pour Lingard taclé par Davinson Sanchez. On avait en studio pendant le match sur RFI Afrique Thomas de Saint-Léger qui a revu plusieurs ralentis, qui nous disait qu'il y avait pénalty. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous qui avez suivi le match à Paris. Est-ce qu'il y avait le pénalty et donc l'occasion de mettre 2-0 pour les Anglais?
Ah non.
Pour moi, non.
Non,
parce que il tacle, c'est sûr qu'il tacle, mais il tacle surtout à côté.
Ouais, c'est un joli tacle.
Alors il touche pas vraiment, il le gêne un peu, mais il touche pas vraiment. C'était trop peu pour siffler penalty.
C'est un peu comme le Colombie-Sénégal avec le contact entre Sanchez et Mané. Le contact existe, maintenant c'est pas forcément une faute. Moi je le siffle pas celui-là.
Il y a une donnée intéressante, Bruno, c'est sur les buts anglais. Ils ont marqué un total de 9 buts pour l'instant dans la compétition, cette Coupe du Monde. 7 buts sur des coups de pied arrêtés.
Ouais, c'est une de leurs forces. C'est une de leurs forces. Ça vient aussi un peu du jeu anglais. Après, c'est aussi des secondes, ce qu'on appelle les deuxièmes ballons en Angleterre, qui sont très importants. Et c'est comme ça que viennent les deux buts d'Harry Kane sur coup de pied arrêté.
C'est l'esprit anglais. Il lâche rien. C'est-à-dire que tant que le ballon n'est pas sorti ou dégagé, il est potentiellement dangereux, et donc ils ont cet état d'esprit, et c'est pour ça que les Anglais ont un esprit un petit peu différent de toutes les autres équipes, parce qu'ils jouent les coups à fond et ils lâchent rien jusqu'à ce que le ballon soit jouable.
Christophe, vous signaliez, ce sont 6 buts pour Harry Kane, le voilà en tête des buteurs de cette Coupe du Monde.
Ouais, sur un penalty, donc à la 57e, suite à cette faute sur Harry Kane lui-même de Carlos Sanchez, dont on parlait tout à l'heure. Harry Kane qui a en fait eu deux périodes dans ce match, puisque il a d'abord joué en pointe et puis après quand Vardy est entré, il a reculé d'un cran. Il était davantage dans le rôle d'un meneur de jeu. Il décrochait très très souvent. Et donc il a poursuivi son ascension, son très bon mondial, alors que là à l'instant Gareth Southgate, vous voyez les Anglais, on en parlait tout à l'heure, les supporters anglais qui n'ont pas quitté le stade du Spartak Moscou,
on les entend
et là,
toujours.
On voit Gareth Southgate et bien on voit le sélectionneur anglais qui revient sur la pelouse et dans son petit gilet là de costume qui vient applaudir les supporters anglais. C'est vraiment une superbe image. Tiens, je vais vous faire une photo, je vais vous mettre ça sur les réseaux sociaux, vous allez voir, vous allez pouvoir en profiter parce que c'est vraiment sympa. Ça fait un moment que le match est terminé et là il est venu faire un petit coucou et remercier à sa façon le sélectionneur britannique, les supporters anglais qui eux remercient leur équipe et changent de bon procédé.
Oui. Et bien Christophe, on est avec les Anglais, on y reste, on va écouter le gardien de but de cette équipe de la Free Lions, Jordan Pickford, celui qui arrête des pénalties essentielles et surtout qui permet à l'Angleterre de se qualifier.
Bien, ça se passe sur une demi-seconde. Mais bon, voilà, il faut savoir réussir sous la pression. J'ai pensé à l'équipe, à ma famille, aux supporters. J'ai toujours voulu donner 100% de ce que je peux faire à l'entraînement et sur le terrain. Et l'important dans une séance de tir au but, c'est le mental. Donc c'est un beau moment pour l'Angleterre, pour notre pays, et on va refaire la même chose contre la Suède. Bon, on prend les matchs un par un. Ça vaut pour les poules ou pour la phase à élimination directe. Il faut gagner les matchs les uns après les autres. Et donc maintenant, on va bien se reposer et on va se préparer pour la Suède.
Bruno Constant, Jordan Pickford, il est pas dans la lignée des gardiens anglais là. Il a été plutôt bon sur tout le match.
Ouais, non, c'est un très 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 bon gardien, très jeune gardien qui avait connu la relégation avec Sunderland il y a un an, qui a été transféré à Everton où il a arrêté 3 pénaltys cette saison. C'est quand même à souligner. Oui. Là sur cette séance,
Christophe et Eric l'avaient dit juste avant le début de la séance des tirs au but.
Il est parti 4 fois sur 5 sur du bon côté sur les tirs au but. C'est marrant, c'est un gardien qui aime bien jouer dans le champ, qui joue souvent dans le champ à l'entraînement dans ses clubs. C'est vraiment un type différent de gardien anglais qu'on a pu connaître. En Angleterre, les gardiens touchaient très peu le ballon avec les pieds, surtout pas d'ailleurs. Il y a une réputation de Calamity James, ancien gardien de Liverpool.
On se souvient de certaines séances.
Mais enfin, les Anglais semblent avoir un bon gardien. Voilà.
Eric, ces séances de tir au but, quand on voit ces joueurs qui partent un peu, alors ils vont pas à l'abattoir, mais ils vont quand même du milieu de terrain jusqu'à ce point de pénalty pour cette séance de tir au but où, évidemment, là, les Colombiens, on y pense parce qu'ils avaient l'avantage et ils le perdent en quelques secondes. Comment on se sent, vous qui en avez déjà tiré des tirs au but?
J'en ai tiré pas mal. J'ai eu cette expérience où c'est vrai que ce chemin est long, hein, quand vous partez du rang central pour aller au point de pénalty. Moi, j'ai tiré en finale de Coupe de la Ligue où il y a 80 000. Mon avantage, c'était de rester concentré sur le geste à faire et sur l'endroit où je voulais tirer de pénalty. Alors ça dépend.
Le public du Stade de France, là, vous le sentiez.
Ouais, mais bon, non. Après, il faut essayer de faire abstraction et de se concentrer
vous
sur.
Pensez à votre femme, à votre maman, à tout ce qu'il disait.
C'est pour ça que ça m'a fait rire quand il a dit tout ça. J'ai dit bon, il exagère un peu parce que penser à tout ça à ce moment-là, c'est pas possible.
Mais c'est peut-être pas faux parce que il y a un gros sujet en Angleterre sur les tirs au but. Ça faisait 6 fois sur 7 qu'ils étaient éliminés lors d'une séance de tirs au but avec l'Angleterre. Ils travaillent ces tirs au but depuis le mois de mars avec Gareth Southgate.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard.
Ils ont organisé des séances où les joueurs partaient du rond central, simulaient vraiment la séance de tir au but pour vivre la situation, apprendre à gérer la situation. Ils ont fait des tests psychométriques pour voir quels joueurs étaient les plus sensibles.
Il y avait une psychose véritable du côté des Anglais.
Ils l'ont vraiment préparé parce que
mais c'était une malédiction et ils voulaient vraiment vaincre cette malédiction. Ils l'ont fait ce soir, mais c'était très compliqué.
Bon, Christophe, on comprend alors pourquoi ça chante autant autour de vous à cette heure-là.
Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de chanter la qualif pour les quarts de finale de Coupe du Monde, les Anglais. Alors ils ont raison d'en profiter.
Bon, on en profite.
Je voulais juste. Allez, je ne sais pas si vous avez terminé. Je voulais avoir l'avis un peu autour de vous de ce Yerry Mina, parce que sur sa perf de ce soir et globalement sur la Coupe du Monde, je ne sais pas ce que vos invités en pensent. Il a quand même pesé d'un poids énorme dans le parcours, lui qui n'a que 23 ans, défenseur recruté au dernier marché d'hiver par le FC Barcelone. Il a planté 3 buts de la tête des buts tous plus importants les uns que les autres, hein, pour cette équipe nationale de Colombie, avec l'ouverture du score contre la Pologne. En deuxième journée, c'est lui qui avait ouvert la marque. Voilà, c'est lui qui marque contre le Sénégal, l'unique but du match. Ouais. Et puis là, c'est lui qui égalise. Donc quand même costaud dans sa tête, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le FC Barcelone, paraît-il, peut très bien le laisser filer après l'avoir recruté il y a seulement 6 mois.
Oui, bon après ça, il faut voir un peu comment ça se trame au niveau du recrutement. Moi, je trouve qu'il a un énorme potentiel. Derrière la paire Miranda, Thiago Silva fait peut-être partie des meilleurs défenseurs centrales de ce mondial. Mais je trouve qu'il a quand même trop souvent tendance à galvauder son talent avec un comportement un peu limite. Il sort très vite du match, il est très nerveux. Je l'ai souvent trouvé un peu bouillant dans les duels. Il se met souvent tête à tête avec l'adversaire. Il doit apprendre à canaliser ça parce qu'il y a vraiment un gros potentiel. Très bon jeu de la tête.
Il a vu quelques remontrances de Messi en personne
et en plus,
sur le terrain.
Bonne relance du pied. Je trouve que pour un garçon de son gabarit, parce qu'il fait au moins 1m95, il a vraiment des vraies aptitudes techniques dans la relance. Mais attention au comportement parfois.
Ouais, bah, il a tout dit, Naïm. C'est vrai que c'est le défaut de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a de la fougue, il y a un peu trop d'entrain sur les duels et sur certaines phases. Et ça s'apprend au fil des matchs et au fil de l'expérience. Alors bon, il n'a pas pu énormément cette année, mais en tout cas, mettre 3 buts dans la Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde, et surtout pour un défenseur. Et à 23 ans, il y a que Kylian qui est bien en ce moment.
Et il a joué toute la prolongation sur une jambe. On a vu qu'il a un souci à l'adducteur et il serrait les dents, mais il a fini le match, quoi. C'est incroyable.
Avant de se quitter, Christophe, on vous propose d'écouter aussi Hurricane, ou Hurricane comme l'a appelé tout à l'heure notre ami Eric Mamrut.
Je pense qu'il a dû avoir le trophée d'homme du match, non? Parce que là, je viens de le voir passer. Lui aussi est allé faire coucou aux supporters. Il avait un trophée dans la main. Je pense que ça doit être l'homme du match.
Ça échoue souvent au buteur dans cette compétition.
Parce que là, c'est difficile de trouver un.
Oui, mais rappelons-le aussi, ce sont en fait des supporters. Hein, c'est des internautes qui votent pour l'homme du match. Donc c'est un peu faussé et c'est pas du tout un œil d'analyste.
Orienté, ouais.
Un peu, oui. On va l'écouter, Hurricane. Ouais.
C'était difficile, on a bien joué, on a failli gagner sur le temps réglementaire et puis on s'est fait prendre sur coup de pied arrêté au dernier moment. Ça a fait mal, mais bon, on y est retourné, c'est allé au tir au but. Par le passé, l'Angleterre n'a pas très bien réussi dans les séances de tir au but, mais bon, il faut croire en nos chances. On a été ensemble tout le temps, on a cru les uns en les autres et on a réussi, on l'a mérité.
Voilà, Harry Kane qui se retrouve donc meilleur buteur. C'est quand même une belle récompense, Bruno Constant, pour ce buteur qu'on suit toute l'année, nous, avec Tottenham. Là, il vit quand même une Coupe du Monde.
C'est un buteur extraordinaire.
Vous aviez raconté qu'à la dernière Coupe du Monde, il n'était que remplaçant et là, il se retrouve star
mais
de l'équipe.
C'est ça. Le dernier mondial, il est arrivé chez lui en vacances et c'est un garçon qui a mis 135 buts en 4 saisons, toute compétition confondue avec son club. C'est énorme. Il a que 24 ans, il est capitaine, il prend toutes les responsabilités, il les assume. Moi, j'ai trouvé encore très très bon aujourd'hui dans un match compliqué où il était très peu servi, il décrochait pour toucher le ballon, pour servir ses coéquipiers. Et puis un petit mot quand même sur les supporters anglais, ils ne sont que 6-7 000, selon les journalistes anglais. D'habitude ils sont 25, 30, 40 000 sur les grands tournois. Et avant la Coupe du Monde, les autorités anglaises, britanniques ont insisté, ont conseillé aux supporters de ne pas aller en Russie à cause des problèmes de hooliganisme qu'il y avait eu à l'Euro notamment. Et du coup ils se sont un peu détachés de leur équipe d'Angleterre, ils suivaient ça un peu d'un œil. Et puis la compétition a monté, puis ils ont commencé à vibrer pour cette équipe. Et là, ils les voient carrément en finale, quoi. Mm-hmm. Ils sentent qu'avec le tableau qui se présente à eux, ils ont vraiment une énorme chance.
Du tableau. En tout cas, c'est vrai que là-bas, tout à l'heure, on a entendu, c'était dans un pub d'Angleterre où la victoire avait fait crier les Anglais, évidemment, sûrement aussi beaucoup boire dans ces pubs anglais. Christophe Jousset, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On vous laisse filer vers votre quart de finale. Ça sera lequel pour vous?
Oui. Oh, écoutez, quel est le quart de finale? Alors là, j'ai un trou complet. Là, je suis dans.
Est-ce
un
que vous
trou
suivez
noir,
l'Angleterre? Non.
Non. On va faire Uruguay France avec Antoine Grenier. Voilà, ça me revient. C'est pas mal. Un petit match. Hein.
Oui, c'est pas mal.
en espérant que Cavani soit là, mais bon, ça va être compliqué.
À Nijni Novgorod, hein, c'est cela.
à Nijni Novgorod. Oui, on va découvrir une nouvelle ville russe.
Ça sera vendredi à 16h. Donc, merci beaucoup, Christophe, ouais. Et bonne soirée avec les Anglais, alors.
Oui, merci.
Ou alors,
oui,
vous consolez les...
on va se retrouver.
Vous consolez les Colombiens, quand c'est... même, aussi, parce qu'ils le méritent.
Thé ou café, hier, ça dépend.
Oui, à vous de choisir. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt.
Bonne soirée.
If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone.
Un air de ABBA, ce groupe symbolique de la Suède. Ça vous fait sourire, hein, Eric.
On demande de qui on va parler, tiens.
Eh bien voilà, de ces Suédois qui sont en quart de finale pour la 7e fois de leur histoire en Coupe du Monde. Mais la dernière fois, c'était il y a bien longtemps. C'était aux États-Unis en 1994. Et ensuite, la Suède était sortie, battue par le Brésil. La Suède a donc, elle, cette fois, vaincu la Suisse par un seul but dans le stade de Saint-Pétersbourg qui n'avait même pas fait le plein. Et pour un match lui aussi qui n'a pas offert une immense intensité, en tout cas pas l'intensité de certaines autres rencontres de ces huitièmes de finale. Le seul but est venu à la 68e minute d'Emil Forsberg, servi par Toivonen, et puis il a été ensuite détourné par le défenseur Akanji. De quoi en tout cas rendre ce joueur suédois qui évolue à Leipzig, on s'en souvient, on l'avait vu en Ligue Europa, et bien Emil Forsberg évidemment très heureux.
Oh, ça va aller bof demain.
De tous les matchs auxquels j'ai participé, c'est sans doute le plus beau. C'était vraiment génial. Maintenant, je ne suis pas surpris. Nous sommes une équipe formidable. Nous travaillons dur les uns pour les autres. Nous avons joué comme il fallait. Nous défendons bien tout en nous créant des occasions pour marquer. Nous savions qu'en continuant à jouer de la sorte, nous aurions des opportunités. C'est exactement ce qui s'est produit. Et j'ai marqué. Le plus grand moment de ma vie jusqu'ici, sans aucun doute. Propulser la Suède en quart de finale est le genre de choses dont vous rêvez quand vous êtes enfant. La Suède avait besoin de moi aujourd'hui et j'ai tout donné pour répondre présent.
La Suède a pris donc le pas sur la Suisse, ouais. Mais a-t-elle vraiment dominé ce match selon vous, Naïm ?
Non, elle n'a pas réellement dominé, en tout cas elle a pas eu la possession du ballon, mais c'est celle qui en deuxième mi-temps a mis le plus d'intensité, qui a voulu se créer le plus d'occasions, qui avait peut-être le plus envie, en tout cas qui s'est donné le plus les moyens, avec un effectif et un jeu restreint, parce que par rapport aux autres affiches dont on parle depuis plusieurs jours, c'était le match avec les équipes, en tout cas sur le papier, le plus faible. Et j'ai trouvé que la Suède a gagné à la suédoise, c'est-à-dire avec un gros bloc collectif, une grosse organisation et beaucoup de cœur. Et en plus, ils jouent les coups très bien à fond. Et j'ai dit cet après-midi, après leur qualification, c'est pas impossible au regard de leur style de jeu et de leur tableau de les voir en demi-finale. Bruno Constant m'a gentiment repris sur Twitter. Moi, je pense qu'au vu de la soirée entre l'Angleterre et la Colombie, je confirme ce que je disais cet après-midi. On peut retrouver la Suède en demi-finale.
Non, c'était pas pour ça. C'est parce
elle
que
va se retrouver face à l'Angleterre.
Non,
c'est
mais
pour
tu mettais qu'ils avaient de les chances de passer face à la Croatie pour aller en demi-finale, alors que je disais qu'ils étaient de l'autre côté, côté anglais. Donc ils ne pouvaient pas battre la Croatie pour aller en demi-finale.
Ah, c'est déjà
malentendu.
C'était pour ça.
Mais non, moi l'idée, d'accord.
Quand on voit jouer les Anglais, non, on peut pas être confiant avec cette équipe d'Angleterre.
Bon, et seriez-vous confiant avec cette équipe de Suède ?
Mais moi, j'aime assez cette équipe de Suède. Il faut déjà rappeler qu'elle a quand même sorti du groupe de l'équipe de France, qu'elle a battu l'Italie, quand même sorti l'Italie en barrage.
On se souvient qu'elle avait battu l'équipe de France en plus.
Oui, en plus,
hein,
qu'elle
à domicile,
qu'elle a éliminé quand même l'équipe d'Allemagne, championne du monde en titre.
Elle en passe trois au Mexique.
Elle en passe trois au Mexique. C'est une équipe qui défend très très bien, et je trouve en plus c'est une équipe qui joue plutôt bien ballon sur les attaques rapides. Ils font pas n'importe quoi sur ces attaques rapides. Donc c'est une équipe qui est extrêmement bien organisée, et je pense que ce genre d'équipe peut aller loin. Maintenant, voilà, si vous me demandez vers où mon cœur balance, vous savez.
On vous le demande pas. Eric Ravesanratana, vous les voyez comment ces Suédois qui finalement renversent tout sur leur passage?
Ouais, bah, ils sont sur une continuité. C'est vrai que quand tu élimines l'Italie, tu empêches l'Italie d'aller à la Coupe du Monde. T'es plutôt sur un nuage, et donc je pense que tu continues sur cette lancée.
Ça donne de la
force. Ils ont eu un petit coup de frein contre les Allemands parce que ils se voyaient vraiment faire le résultat qu'il fallait contre les Allemands. Donc peut-être ça les a mis en danger, ça les a
de nouveau
reboosté. Et finalement ils sont repartis. Et alors c'est vrai qu'ils sont pas, ils ont eu quand même d'autres occasions hein, que ce but un peu chanceux de Forsberg, parce que mais ils ont eu d'autres occasions, donc c'est pour ça que je dis que quelque part c'est mérité. Moi j'ai trouvé les Suisses un peu trop timides par rapport à l'enjeu. Je sais pas,
de la Suisse, c'est un peu comme beaucoup d'équipes dans ce mondial, et c'est un peu ce qu'on pouvait leur reprocher contre le Brésil, c'est qu'ils ont commencé à jouer quand ils ont été menés finalement.
Et contre la Serbie, on se souvient, ils avaient réussi à renverser le score.
Alors je dis pas que les Suisses auraient pu faire je sais pas quoi s'ils avaient joué avant, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir autant laissé la chance à la Suède. Ce qui est extraordinaire avec cette équipe, c'est que bon, vous avez parlé d'Emil Forsberg, qui on va dire le plus connu parce qu'il a joué la Ligue des Champions, tout ça. Ils ont Granqvist derrière, qui est là depuis très longtemps, qui est le capitaine. Pour le reste, c'est quand même une équipe.
Mais c'est un travail d'équipe, c'est un collectif. C'est ça la force de cette équipe, c'est un collectif.
C'est une équipe devant qui joue avec Toivonen, qui est remplaçant à Toulouse.
Et qui fait la passe décisive.
Et moi, je le trouve transfiguré par rapport à ce qu'on voit en Ligue 1. Ils ont Durmaz qui est remplaçant. Ils ont des joueurs, Marcus Berg, qui joue aux Émirats Arabes. Enfin, si vous comparez avec les autres équipes qui sont encore engagées, on se dit comment ils font pour en arriver là. Mais c'est pas le hasard. C'est un vrai travail collectif.
Il n'y a plus de stars. Mais justement,
et c'est là que je voulais venir. Parce que vous l'abordez, Bruno, et effectivement, c'est une Suède sans Zlatan, et on l'avait vu assez pâle cette Suède durant l'Euro, on s'en souvient. Et là, il y a eu quand même quelques tacles de la part de ses camarades juste avant, parce que il a espéré qu'on l'appellerait pour cette Coupe du Monde. Zlatan,
il a même poussé les portes. Hein.
Alors, le sélectionneur ne voulait pas, mais apparemment les joueurs non plus, parce que le capitaine Andreas Granqvist, justement, la veille du match contre la Suisse, donc il déclarait: au cours des deux dernières années, tout au long des qualifications, nous nous sommes battus les uns pour les autres, nous l'avons montré très clairement déjà. Et après, le gardien Johnson, qui lui dit: Zlatan, comme personne et comme joueur, alors lui il met un nom, est quelqu'un d'individualiste, le jeu tourne autour de lui, maintenant on joue plus en équipe, on joue tous ensemble. Et c'est la force de cette équipe, vous l'avez dit tout à l'heure, Eric.
Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que bon, Zlatan monopolise un peu l'attention et forcément oblige un petit peu
les ballons, il l'a fait à
Paris. Alors bon, ça peut être positif comme ça peut être très négatif, et il attire le ballon, il attire les joueurs, ils se sentent obligés de lui donner le ballon, ce qui fait que il y a plus de jeu collectif, il y a plus de, et là on a retrouvé une équipe peut-être libérée justement de cette emprise, et là pour l'instant ça marche bien, et il a fait déjà le bon choix de ne pas prendre Zlatan.
Il y a pas de hasard, c'est la première fois que la Suède se qualifie en quart de finale de la Coupe du Monde depuis 1994.
Et c'est mérité.
Donc
en plus.
Et c'est donc, là, un moment où ils ont pas de star du tout, parce qu'il y a eu Thomas Brolin par le passé, mais
Kenneth Anderson et des ce qui est très bien pour la Suède, c'est qu'ils sont dans la moitié de tableau où on a affaire à des matchs qu'il faut répondre aux défis physiques. On l'a vu encore ce soir, c'était très tendu, très haché entre Colombiens et Anglais. Les Russes jouent un peu comme ça, à courir partout, à mettre une grosse tension, une grosse pression. C'est un style qui leur plaît. Je pense que footballistiquement, évidemment, que c'est en dessous le Brésil, c'est en dessous la France, c'est en dessous la Belgique. Mais dans cette moitié de tableau, ce style qui est le leur, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Twitter, avec cette discipline, ce bloc, cette manière d'aller très vite vers l'avant comme ça, ils ont vraiment toute leur chance.
Ouais, ça peut suffire. Ouais.
Alors parlons un peu de la Nati, parce que quelle tristesse pour cette équipe.
C'est fou.
Mais elle est vraiment marquée par le mauvais sort, ou par alors la maladresse aussi, hein, parce que elle a un vrai problème, c'est celui d'efficacité devant le but. C'était son 5e-8e de finale disputée depuis 1994. Elle n'a marqué qu'un seul but dans ses 5 matchs. Et donc voilà, écoutons d'ailleurs le défenseur Johan Djourou expliquer, oui, eh bien que c'est ça, le manque de but qui fait qu'ils sont encore éliminés.
Dans l'ensemble, on a manqué peut-être un petit peu de folie dans les 20 derniers mètres, parce que je pense que la Suède est à notre portée. Dans l'ensemble du match, on a été quand même plus fort qu'eux sur tout l'ensemble du match. Malheureusement, des fois au foot, ça ne suffit pas. Il faut jouer jusqu'à la fin. Puis en plus, on concède un goal de la sorte, donc c'est encore beaucoup plus difficile à accepter. Et je pense que l'équipe doit continuer à travailler et à grandir. Il faut aussi donner un petit peu de crédit à la Suède. Ils ont bien défendu, on savait que c'était une équipe qui était assez stable. Mais même avec ça, on a réussi à se trouver des intervalles ou de la place sur le côté pour mettre des centres ou avoir des 1-2 dans la zone centrale. Mais on n'a pas réussi. Il nous a manqué ce petit plus, cette petite flamme pour faire la différence aujourd'hui. Et c'est malheureux, parce que je pense que dans l'ensemble de ce match, l'équipe de Suisse aurait été méritante.
Alors méritante, mais qui a montré ses limites, Eric.
Ouais, qui a montré ses limites, clairement. Même, comme on le disait, c'était contre la Suède. Mais ils sont tombés contre un collectif beaucoup plus fort. et avec un joueur qui est capable de faire la différence devant. Oui. Là, c'est pas le cas pour l'instant. Enfin, pour l'instant, et ce sera fini de toute façon pour la suite.
On avait vu ce collectif face à la Serbie. Là, on l'a pas vu, mais il y avait aussi des absents de marque.
Il manquait Lichtsteiner, qui est leur capitaine. Il manquait Char aussi. Donc voilà, sachant que devant, ils n'ont plus le joueur comme ils ont eu à une époque, Alexander Frey, et qui leur fait cruellement défaut pour marquer des buts dans les 20 derniers mètres. Maintenant, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut se rappeler que quand Omar Hitzfeld est parti de cette équipe, on savait pas trop ce qui allait devenir. Petkovic, il arrive, il hérite d'un groupe très jeune, il y a des joueurs qui s'en vont, il est un peu en conflit avec certains. On dit, bon, on sait pas trop ce que ça va donner. Il fait une phase de qualification d'éliminatoire très propre. Il a juste une défaite. Il fait une phase de préparation pareille. Il joue avec des jeunes parce que le groupe est pas si vieux que ça avec les Suisses. On parlait de Dakanji derrière. Il y a Mbolo qui joue avec Chal. Enfin, c'est des gamins. C'est issu de la formation suisse qu'on a vu briller dans les compétitions de jeunes. Moi, je pense que faire un huitième de finale dans un groupe où on voyait quand même le Brésil et la Serbie sortir, c'est plutôt pas mal et ça peut servir de base pour la suite.
Ben voilà.
C'est parfait.
Un petit mot sur la Nati, non, Bruno?
Juste un, mais parce qu'il y a un joueur que je connais bien qui joue sous mes d'Arsenal, qui s'appelle Granit Xhaka, qui a été catastrophique aujourd'hui.
Ouais, surprenant et, même sa prestation.
Énormément de pertes de balles, et puis ce qu'on voit toujours à Arsenal, une espèce de nonchalance dans les duels et dans la façon de presser. Il y a une séquence, moi je regardais le match sur la BBC, ils ont fait une séquence à la fin du match. Vraiment sur lui, c'était épouvantable.
Oh là là, il va continuer à Arsenal, vous croyez?
Malheureusement, j'ai bien peur.
Lui et Ozil.
Pour les supporters, Arsenal. Ouais.
Allez, on continue dans Radio Foot.
Et ça bouge sur la place rouge. Et ça bouge.
Ça bouge sur la place rouge, bon, et ça bouge aussi dans le studio. Vous pouvez nous voir sur le Facebook Live, n'oubliez pas, et vous pouvez aussi partager ce lien. Alors, un bilan de ces huitièmes de finale, en pensant à la place rouge, qui se vide sans doute de certains supporters, puisque, évidemment, eh bien, plus la compétition avance, et moins il y a d'équipes. En tout cas, d'ici le 15 juillet, eh bien, on s'en rend compte maintenant. Une de ces quatre équipes disputera la finale, et ça sera ou la Russie, ou la Croatie, ou la Suède, ou l'Angleterre. Alors, je crois que dans les Paris, qui l'aurait imaginé, sans doute peu de monde. En fait, c'est surtout ce qui nous surprend, c'est la répartition. Quand on vous dit entre les deux parties de tableau, chers auditeurs, c'est parce qu'il y a un moment où on a des équipes qui sont qualifiées en huitième de finale, le premier qui rencontre le deuxième. Donc les groupes se croisent et tout d'un coup, eh bien, on a une répartition et de chaque côté, ces équipes ne peuvent se retrouver plus qu'en finale. Ce qui fait qu'on est sûr, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir un France-Brésil en finale parce que ça sera forcément avant. On ne peut pas avoir non plus en quart de finale, hein, France-Russie ou un, je sais pas, Brésil-Angleterre. Et cette répartition, on voit quand même, d'un côté, on a eu en huitième de finale la France, l'Argentine, l'Uruguay, le Portugal, le Brésil, voire la Belgique, donc parmi les favoris ou les grosses équipes. Et de l'autre côté, on a eu l'Espagne. Et puis, peut-être, on peut mettre la Croatie, l'Angleterre ou la Colombie là-dedans. Ça veut dire que les autres étaient inattendus. Et surtout, tous ensemble. Comment vous comprenez ça?
Bah, tout simplement parce que les gros n'ont pas tenu leur standing. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que ceux qui devaient finir premier, ils ont fini deuxième.
Ils ne sont pas partis.
Donc voilà, exactement, où ils se sont fait sortir. Quand vous avez l'Espagne, l'Allemagne qui sortent, déjà, ça fait deux gros qui sont prétendus à être éventuellement dans le dernier carré. Donc déjà ça fait deux places supplémentaires plus ceux qui répondent pas présent, ça fait beaucoup.
Dans l'idéal, on va dire des têtes de série ou des grandes nations, on aurait dû avoir Angleterre, Allemagne d'un côté et Croatie, Espagne, et là on peut dire que ça aurait été des quarts de finale assez costaud.
Même
c'est aussi parce qu'il y a eu des énormes faillites collectives de grandes nations comme l'Espagne et l'Allemagne.
Même avec une qualification de l'Allemagne. Et avec, on va dire, si l'Espagne avait passé la Russie, t'aurais quand même eu une moitié de tableau plus déséquilibrée que l'autre. La moitié de tableau où se retrouvent la France, le Brésil, la Belgique, le Portugal, l'Uruguay, l'Argentine.
Mais on avait quand même les Allemands champions du monde. On avait l'Espagne qui était un des grands favoris de cette Coupe du Monde.
On va dire, t'en as deux, trois qui seraient quand même passés de l'autre côté, ce qui aurait soulagé un peu le tableau.
Ce qui construit un tableau, c'est le système des têtes de série. Les têtes de série, c'est par rapport au classement FIFA et puis aussi aux points accumulés dans les compétitions précédentes.
Non, mais là, il y en a qui sont beaucoup sortis de ces têtes de série.
Est-ce qu'il faudrait pas aussi, à un moment donné, essayer de revoir ce système de têtes de série où on sait dès le mois de décembre qui va jouer contre qui en huitième, qui va jouer contre qui en quart, et on se retrouve, on savait depuis 6 mois qu'il y avait une partie de tableau qui était beaucoup plus chargée que l'autre. Et on savait pas que les Allemands allaient sortir et que les Espagnols allaient se rater contre les Russes.
La preuve que non, parce que la deuxième partie de tableau, on a plein de surprises.
Donc finalement, non, mais moi c'est très bien qu'il y ait des surprises et de voir la Suède et de voir peut-être la Russie battre la Croatie.
Avec des
c'est très bien, ça change.
Finalement, on voit qu'on peut avoir des surprises. Mais
il faut que tu fasses un tirage au sort. Si
bah ouais, peut-être qu'il faudrait revoir le système de tirage au sort ou alors
faire un tirage au sort après la phase des huitièmes de poule.
Non, ou alors dès le départ, c'est-à-dire arrêter de faire ce système de tête de série ou alors de revoir le classement FIFA où on se retrouve parfois avec des classements ahurissants des équipes qui se retrouvent.
C'est pour préserver justement les grosses affiches sur les derniers tours. C'est pour ça que c'est logique.
Je comprends bien. Mais après, les grosses nations sont quand même censées être là dans les derniers matchs. Donc ces gros matchs-là, tu les as.
Mais imagine que tu fais le tirage au sort pour les groupes et que t'as le Brésil, la France, l'Argentine et l'Espagne dans le même groupe.
Bah, c'est la Coupe du Monde, mon pote.
Là, il pleure.
T'es quand même des têtes de série.
Non mais Bruno, qu'il y ait des têtes de série, je veux bien. Ce que je dis, c'est qu'il faut revoir
après la phase de poule peut-être.
Ce classement, mais oui, le classement FIFA, le classement FIFA où tu te retrouves avec des équipes qui parfois sont dans les 2-3 premières alors qu'elles ont joué 3 matchs dans l'année, ou que tu te retrouves avec des pays sud-américains premier ou deuxième alors qu'ils n'ont pas fait un match officiel en 2 ans.
On le sait,
c'est ça le souci aussi du classement.
Il y a certaines équipes qui ne disputent pas de matchs amicaux pour justement ne pas perdre les places.
On parlait de la Suisse il y a 2 secondes. La Suisse a pendant, alors je sais plus si c'était en 2018 ou en 2017, la Suisse a dû faire 4e ou 5e nation mondiale à un moment donné dans le classement FIFA. Est-ce que c'était mérité, sincèrement? Pas du tout. Donc ce classement aussi des têtes d'affiche et de la manière dont ça se croise, c'est ça qui fausse le tableau.
Ouais, mais tu es obligé de changer tout un système en fait là maintenant. C'est-à-dire que si tu veux un changement, il faut changer tout le système.
Est-ce qu'il faudrait pas changer le système aussi?
Bon, bah alors justement, ce système peut-être changer parce que quand on voit les gros qui sortent finalement, qu'est-ce qu'on en déduit? Est-ce qu'il y a un nivellement du niveau des équipes? Est-ce que aussi c'est une sorte de régénération actuellement avec certaines équipes? Je pense à l'Islande par exemple qui tout d'un coup se hausse à un niveau assez surprenant, ou le Japon, mais on pourrait effectivement là en citer plein d'autres. Ou est-ce que finalement c'est un passage de témoin auquel on assiste?
Qu'il y ait des cycles qui se terminent chez les grosses équipes, c'est vrai, et c'est vrai aussi, comme le disait tout à l'heure,
tu sais,
Eric, les gros n'ont pas été au rendez-vous. L'Allemagne n'est pas au rendez-vous. L'Argentine, c'est pas au rendez-vous. Mais je crois aussi que, on a tendance à dire, en Ligue des Champions, où ça, il n'y a plus de petites équipes. On le voit sur cette Coupe du Monde. On a un peu tendance à surestimer les gros et à sous-estimer les moins gros parce qu'on voit le football aujourd'hui à travers les clubs. Parce que le football de club est devenu plus fort que le football des sélections. Real Barça, c'est plus fort qu'Espagne-Allemagne aujourd'hui. Donc on regarde ça par rapport au football de club. On se dit, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, des clubs qu'on a l'habitude de retrouver en Ligue des Champions, Ligue Europa, on dit, bah eux, ils vont forcément finir dans le dernier carré. Et puis les autres, la Suisse, la Suède, le Mexique, machin, c'est un peu plus en retrait, on fait, ouais, non, ça moindre. Alors qu'en réalité, pas du tout, c'est des équipes qui progressent, qui travaillent.
Ouais, c'est vrai.
Et puis aussi une méconnaissance du football des autres confédérations. On connaît pas bien le football d'Amérique centrale, c'est absolument pas une surprise de voir le Mexique. On connaît pas bien le football asiatique parce qu'on le regarde uniquement à travers le prisme de l'argent du Qatar. L'Iran, le Japon, la Corée du Sud, c'est des pays qui travaillent très bien en matière de foot depuis des années.
Et c'est ça, et je pense que le Japon et toutes ces équipes respectent le football et en fait respectent les fondamentaux. Ce qui fait que ça leur donne plus d'expérience et de force, et dans le jeu ils sont d'autant plus intéressants et ils commencent à poser des problèmes aux gros qui peut-être de temps en temps arrivent l'esprit facile et se laissent surprendre par des équipes qui commencent à, parce que l'Iran, le parcours de l'Iran, il n'est pas du tout surprenant, et c'est une équipe qui a été été performante et qui a montré du jeu. Le Japon, je suis pas surpris non plus. Toutes ces équipes, ces nations sont en progression et c'est vraiment intéressant pour le football international.
Et justement à faire un peu la boule dans le jeu de quilles.
Mais parce que par exemple l'Iran, prenant l'exemple de l'Iran, ils ont le même entraîneur depuis 7 ans. Mm-hmm. Carlos Queiroz, qui est un excellent entraîneur, qui a travaillé à Manchester United avec Alex Ferguson.
On va pas dire ça du Japon parce
qui a pu mettre en place vraiment une vraie politique technique au sein de la fédération, et ça c'est important. Et les petites nations, c'est un peu le souci souvent.
Ouais.
Et après il y a aussi une chose, on dit qu'il y a plus de petites équipes, mais moi je pense aussi qu'il y a plus de grandes équipes. Parce que l'Argentine, on discute avec les confrères argentins, ils vous disent que cette équipe-là, elle marche sur la tête depuis 2 ans.
C'est vrai.
Quand on parle avec les confrères allemands, ils vous disent que l'Allemagne, depuis un an, c'est catastrophique. Mm-hmm. Ce qui avait été mis en place.
On le voyait dans les matchs amicaux d'ailleurs.
Même en Ligue des Champions, on voit.
Et l'Espagne, et après, il y a eu des faits. L'Espagne, c'est quand même, c'est du jamais vu, un entraîneur qui a
fait
2 jours avant le premier match de la compétition.
Le problème aussi de l'Espagne, je ne retire rien à ce qu'a fait la Russie et même ce qu'on fait en poule, le Maroc et tout, mais le club il a vécu en autogestion. Hierro, c'est une nomination administrative parce qu'il faut mettre un nom sur une feuille.
Mais d'ailleurs, il y a un énorme problème, le groupe, c'est une énorme colère.
C'est hallucinant parce que j'en faisais un favori, l'Espagne, parce qu'il m'avait impressionné sur les matchs de préparation.
C'est normal.
Il m'avait impressionné dans le jeu. Je me dis, mais c'est incroyable. Comment on peut virer un entraîneur comme ça? Ou alors c'est le Real qui a mis.
Alors, il y a peut-être plus de grandes équipes, mais il y a quand même encore des grands joueurs. Et peut-être que, eh bien, pour deux d'entre eux, on n'entendra plus ceci dans une Coupe du Monde.
On va chasser un excellent ballon pour Messi. Ça va, c'est juste le ballon de Messi. Le ballon de Messi qui délivre l'Argentine après même pas 20 minutes de jeu ici à Saint-Pétersbourg. Magnifique ballon en profondeur. Et Lionel Messi fait le reste. Le héros, le Messi tant attendu, est présent.
Cristiano, il va. Et goal!
Ce magnifique but de Lionel Messi marqué contre le Nigeria et puis ce coup franc de Cristiano Ronaldo en fin de rencontre, une des plus belles rencontres de cette Coupe du Monde qui était Portugal-Espagne. Alors, ils sont sortis en plus le même jour, ces deux joueurs. L'un, c'était avec l'Argentine dans le match contre la France. L'autre, c'était évidemment avec le Portugal face à l'Uruguay. Est-ce que c'est une coïncidence? Et puis alors, en plus, je rajouterais le jour où on voit Kylian Mbappé qui fait après le tour du monde dans la photo et qui a impressionné. Est-ce que finalement il y a eu
une passation de pouvoir, c'est ça?
Un passage de témoin, peut-être tout simplement, pas de pouvoir, mais de style et de témoin. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi déjà, Eric, je trouve que pour les deux, c'est pas pareil. C'est-à-dire que Messi, pour moi, il vaut mieux pour lui qu'il arrête la sélection parce que ça se passe pas bien du tout et depuis de nombreuses années. Ouais. Par contre, Cristiano tient son rang de leader, tient son rang de buteur. Moi, ça me dérangerait pas qu'il continue, même pour la prochaine Coupe du Monde, parce que c'est un bosseur. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, il le fait par la force du travail. Alors, il a le talent, bien sûr, mais par la force du travail. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui. On n'arrête pas de temps en temps de le tailler parce que, mais franchement,
ça fait moins.
Parce que franchement, entre les deux, il y en a un qui a du talent et qui est préservé par son club parce que il peut pas faire les efforts comme il veut, et un autre qui court dans tous les sens et qui travaille et qui est toujours là le premier à l'entraînement et qui respecte vraiment son métier et qui donne beaucoup à son métier. Donc je trouve que c'est pas du tout pareil. Il faut pas je pense pas qu'il faut les comparer sur déjà.
Oui,
sur
mais ils étaient quand même tous les deux dans deux sélections.
Moi, je pense que Cristiano peut continuer, mais pas Messi.
Il y en a un qui est un leader clairement et qui arrive à fédérer autour de lui toute l'équipe. On parlait de Zlatan tout à l'heure avec la Suède, c'est tout l'inverse. Et Cristiano Ronaldo est capable de faire ça, alors que Messi, on le voit dans son langage corporel, il subit tout ce qui se passe. Et en
même
plus,
quand il a joué le match, tu regardes l'un qui est motivé comme je sais pas
pendant
quoi,
l'hymne notamment,
qui est livide, c'est pas possible quoi.
C'est une histoire terrible. T'en as un qui est profondément portugais et l'autre qui est espagnol depuis qu'il a 10 ans.
C'est ça aussi. C'est vrai. Mais c'est possible.
Il y a un souci entre
Messi.
Hein. C'est ma lecture. Je pense qu'elle est pas mauvaise en plus, mais
il y a aussi.
C'est mon côté Cristiano. Il y a aussi ce qui est très décevant, c'est que l'Argentine, au-delà de Messi, qui est au-dessus du lot, a quand même tout un panel de joueurs magnifiques, et c'est pour ça qu'ils nous déçoivent. Alors que vous prenez le Portugal depuis le départ de toute la belle génération, Figo, Rui Costa, Maniche, Costinha, c'est Ronaldo et les autres. Ouais. Ronaldo, il porte tout seul. Alors, il y a des beaux joueurs à côté, Quaresma, Bernardo Silva, super joueur, Pauleta, c'est très bon joueur. Mais c'est quand même
c'est Ronaldo et le reste.
Alors qu'en Argentine, ok, mais si au-dessus, il n'y a pas de souci, mais il a quand même autour de lui des mecs, toutes les sélections les voudraient. C'est peut-être aussi ce qu'on pardonne moins à Messi.
Est-ce qu'ils vont manquer à la compétition?
Oui. Bah évidemment, c'est les deux meilleurs joueurs du monde, la Coupe du Monde, c'est
on
la
les
plus
reverra,
belle compétition
alors, vous
du
pensez
monde. Non, moi je trouve pas qu'ils vont manquer, parce qu'on va avoir d'autres joueurs, il va y avoir d'autres stars, on va parler d'Mbappé, on va parler d'Harry Kane, on va parler d'Eden Hazard, on va parler de Lukaku, c'est
Lukaku dont on parle pas assez
parce que la prestation a pas été bonne aussi, c'est-à-dire que s'ils avaient été bons et qu'ils se font sortir, tu te dis bon bah là dommage parce que cette équipe mais là dans ce sens-là, tu dis bof, moi je vais voir les autres, on va voir.
On termine en dansant, ça vous dit? On rend hommage quand même avec cette jolie musique aux Cafeteros qui qui pleure peut-être encore sur la pelouse de Saint-Pétersbourg, éliminée de cette Coupe du Monde, puisque c'est l'Angleterre qui jouera donc la finale contre la Suède. On a trop parlé contre la Suède. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot. Merci aussi à David Finzel, à Guillaume Ploquin, à Laure Tamperville et à Cyril Etienne, Jérémy, docteur aussi.